Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, le télétravail ou travailler à distance pour une entreprise ou un employeur. Dans un pays comme la France, chaque salarié passe en moyenne l'équivalent d'une semaine par an pour se rendre sur son lieu de travail. Si évidemment on additionne le temps passé dans les transports. Alors dans ce cas, pourquoi le télétravail demeure-t-il encore finalement assez marginal? Quels sont les freins, aussi bien du côté de l'entreprise que des travailleurs? Pour en parler, je reçois Bruno Gonzalves, auteur et blogueur, spécialiste du télétravail. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en télé-interview d'ailleurs.
Je suis en télé-interview.
Dans le sud-ouest de la France et vous avez bien raison. Oui. Merci quand même aux moyens techniques de France Bleu Béarn pour établir la liaison. Alexandre Delecoq, en chair et en os, dans le studio de 7 bonjour. Milliards de voisins RFI. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole de Citrix, qui est une entreprise qui vend des solutions techniques, du matériel informatique pour le télétravail. Et vous nous direz où en est la technologie, quelles sont ses limites aussi. Et puis également dans le studio, un homme qui a fait une expérience assez singulière. Bonjour Gauthier tout le monde.
Bonjour.
Vous êtes patron de presse, vous dirigez deux magazines et vous êtes installé pendant 40 jours sur une île déserte en Indonésie, à plusieurs heures de bateau de toute civilisation, pour donc gérer à distance vos équipes, écrire vos articles. Vous étiez d'ailleurs intervenu chez 7 milliards de voisins de votre bureau sur la plage. C'était il y a un an maintenant, un peu plus d'un an, hein, c'est ça?
L'interview, je crois que c'était en novembre 2013.
C'est ça. Donc,
j'ai eu pas mal de difficultés à vous avoir, parce que le téléphone, ça ne marche pas toujours très bien.
Il pleuvait beaucoup.
Il pleuvait pas
vous
mal.
Vous avez donné énormément d'interviews pour toute la presse française, d'ailleurs. Pendant ces deux mois, vous étiez très occupé.
Alors,
vous avez travaillé avec de l'énergie solaire pour faire fonctionner les connexions satellites, Internet, plus d'embouteillages donc pour aller travailler, mais à la place, la corvée d'aller à la pêche au risque de mourir de faim. Et tout ça est raconté dans votre livre Robinson volontaire, de l'open space à l'île déserte. On va en parler avec vous. Et quant à vous, bien sûr, les voisins et les voisines, toutes vos questions ou vos témoignages sur le télétravail au 33 1 84 22 71 71. Je vous lis quelques messages parvenus virtuellement sur les réseaux sociaux à distance. Donc, réticence et doute pour cet internaute qui nous dit « Moi, je crois que ça diminue la rentabilité, le télétravail, surtout en raison de l'absence de contrôle. On risque de faire passer sa vie privée avant le boulot ou de remettre les tâches au lendemain pour ne citer que ça. » Bah, faire passer sa vie privée avant le boulot, il y en a qui le font déjà en allant au boulot, ce qui n'est pas un projet fou, me semble-t-il.
Non, pas
bon, Souleymane est au Tchad, il nous dit « Cela rend l'homme paresseux de travailler à distance. » Encore Ahmed nous dit « Personnellement, je travaille à la maison. C'est une nouvelle expérience pour nous les Africains, pour ceux qui sont à leur compte. Je me sens libre parce que j'arrive à accorder justement du temps à mes proches et j'arrive aussi à pratiquer mes hobbies. La rentabilité ne diminue en aucun cas si on s'organise. » Ça, c'est Ahmed qui nous dit ça. Mohamed nous dit « Ah, un pareil boulot, je crois que ça me plairait si tous les postes étaient pourvus de cette façon, donc en télétravail. Je crois qu'aucun enfant ne se plaindrait de son père. Tu n'étais jamais là pour moi, tu rentres tard, tu pars tôt. » Fini les reproches de ce genre. Vous avez beaucoup fait ce genre de reproches, vos fils, Gauthier, tout le monde, puisque vous racontez votre vie, donc dans Robinson volontaire.
On communiquait simplement par Skype une fois par semaine, et finalement Skype, j'aimais pas trop, curieusement, parce que je voyais mes proches, je voyais des images, je me sentais proche d'eux, et puis lorsque je fermais la session, je me rendais compte qu'il n'y avait plus personne. Et que j'étais réellement seul et que je vivais une vraie solitude. Donc finalement, j'ai pas beaucoup aimé Skype.
C'est ça, parce que contrairement à tous les autres, vous êtes parti tester cette épopée de télétravail, mais pour vous isoler, non pas pour tellement profiter de vos proches. Là, cette fois-ci, c'était vraiment une expérience à part.
J'étais vraiment sur une île déserte où il y avait strictement personne. Au centre de l'île, c'était une jungle très épaisse, très dense. Il y avait des serpents, il y avait des varans, il y avait des milliers de rats. Donc c'était une île qui était a priori plutôt hostile. Et j'étais parti au moment de la saison des pluies, donc c'était pas vraiment idéal. J'avais posé la question à mon équipe de savoir si quelqu'un était tenté par l'expérience.
À votre place.
À la place, et je l'aurais fait. Mais bon, visiblement, la saison des pluies, les bébêtes, etc., et puis les risques réels qu'on peut avoir sur une île quand on est seul, finalement, on m'a dit, c'est très bien pour toi.
Voilà. Ça, fallait pas leur décrire avant, peut-être.
C'est ça, le télétravail, c'est bien si possible, si on est à la maison, en tout cas dans un lieu sécurisé. 33 1 84 22 71 71, c'est le numéro de téléphone auquel vous pouvez nous appeler pour soit interroger Gauthier tout le monde sur son expérience hors du commun, ou bien tout simplement pour nous faire partager votre expérience de télétravail. Voilà.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine, 7 milliards de voisins.
Gauthier Tout le Monde, justement, j'allais vous poser cette question. Quelle mouche vous a piqué de faire une expérience de télétravail à partir d'une île déserte quand on voit bien ce que vous venez de nous décrire. Les varans, les pluies torrentielles, les serpents. Vous étiez déjà en plus en télétravail en France entre Lille et Paris pour diriger une équipe de 9 personnes. Alors pourquoi cette expérience incroyable ?
Bon, il est vrai que c'était aussi un rêve d'enfant de partir très loin sur une île déserte, seule. Je crois que c'était les lectures de Jules Verne, c'était aussi le commandant Cousteau, et tout ça, ça me fascinait beaucoup. Donc, soyons clairs, il y avait aussi derrière un rêve de gamin. Je pense que lorsqu'on a une 50aine d'années, c'est bien aussi de pouvoir les réaliser, donc ça, c'était bien. Et l'idéal, c'était que je pouvais réaliser un rêve d'enfant tout en faisant la promotion de choses qui me sont chères, comme le télétravail ou encore l'énergie solaire, puisque j'étais en totale autarcie énergétique, ce qui est très important.
Alors, il y avait évidemment des problèmes de sécurité également, hein. Pas seulement, ça n'était pas seulement une prouesse technologique. On a choisi pour vous une île où vous aviez installé votre camp de base, c'est-à-dire votre tente, d'un endroit où vous pouviez voir arriver tout visiteur, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul endroit où un bateau était susceptible de débarquer. Pas franchement un endroit très accueillant.
Alors, Lille, il y a eu d'excellents moments, mais Lille, effectivement, peut recevoir aussi des visites. Hein. Rares sont les îles désertes où il n'y a strictement jamais personne. Donc, à 2 reprises, j'ai eu des visites de personnes avec forcément des intentions qui n'étaient pas excellentes. Donc, j'ai eu peur aussi pour ma vie une fois. Bon, cela dit, l'idée, c'est aussi de montrer comment un citadin comme moi, sans qualité particulière, pouvait s'en sortir dans un milieu qui lui était totalement étranger. La jungle, les animaux, des personnes qu'on ne connaît pas, pouvoir résoudre aussi des bugs informatiques tout seul, des bugs techniques. C'était intéressant de ce point de vue-là. C'était un petit laboratoire, cette île.
C'est ça. Alors, on va reparler de l'aspect technologique. Mais ce qui est fou, c'est quand on vous lit, Gauthier Tout le Monde, c'est que vous êtes à peu près aussi débordé qu'à Paris, en fait, sur cette île déserte. Entre envoyer vos articles, parce que vous travaillez donc, vous gérez deux... Vous êtes patron de presse, vous gérez 2 magazines pour lesquels vous écrivez. Vous n'êtes pas qu'un gestionnaire. Donc, il faut produire de l'écrit à partir de votre petit bureau sur la plage. Et puis il faut survivre, il faut se nourrir.
Alors effectivement, j'étais en mode survie, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment que je pêche pour me nourrir correctement. On s'aperçoit que lorsqu'on travaille à distance sur une île déserte, on passe beaucoup de temps à la logistique du camp, c'est-à-dire à réparer des choses. J'étais pas très bricoleur. Et donc cette logistique, qui est liée aussi aux tempêtes que j'avais tous les soirs, il fallait réparer des choses. Donc ça venait s'ajouter au travail, et finalement mes journées étaient bien plus accaparantes qu'en Europe. C'était même par moments horrible.
Ça, vous levez à 3h du matin, quoi, en gros.
Parfois, je me levais à 3h, je me levais toujours avant le soleil pour m'assurer que tout allait mieux. Une fois qu'on a de lumière, c'est quand même plus agréable. Donc oui, c'était totalement accaparant. Oui, à certains moments, cette île me faisait penser à un bureau. Il manquait plus que des armoires métalliques, des dossiers suspendus sur la plage.
Comme quoi, on a les prisons que l'on se fait, finalement.
Voilà. C'est assez étonnant. Le week-end, je me disais, tiens, ce serait sympa si j'allais sur une île déserte en face. Ça ferait moins bureau. Voilà. Donc, on peut associer l'île à son espace de travail. Encore une fois, Dieu merci, il y a eu des moments absolument magiques. Faut pas les oublier, cela.
Vous avez poussé à l'extrême, finalement, toutes les difficultés habituelles du télétravail.
10 000 km des locaux en France, et puis 6 heures de décalage horaire, oui, c'est important.
Ouais. Bruno Gonzalves, vous qui êtes en télé-interview à Pau, vous travaillez dans le secteur de l'Internet, c'est là que le télétravail a le plus progressé?
Disons que Internet, en fait, il faut le voir comme un moyen. C'est pas une fin en soi. C'est pas. On peut pas dire je travaille dans l'Internet comme on dirait je travaille dans l'industrie automobile. Internet, en fait, c'est un moyen qui a facilité justement le télétravail en donnant
accès... du commerce à distance notamment, hein.
Oui, mais c'est surtout en donnant accès à des moyens de communication et d'information très performants au plus grand nombre. Et de ce point de vue-là, en fait, c'est vrai qu'Internet a beaucoup contribué. Des gens qui travaillent à domicile, il y en a toujours eu. La difficulté, en fait, c'était à la fois de pouvoir les coordonner leurs actions, les je dirais pas les contrôler, mais en même temps mesurer leur performance, et puis échanger, soit avec son employeur, soit avec ses collègues, soit. Mmh. Et là, effectivement, avec les nouveaux moyens de communication, ben, on est en plein dedans, quoi. Là, je vous parle, je suis à 1000 km de chez vous, mais je pourrais très bien le faire avec un client, avec un donneur d'ordre, avec un partenaire, ça change pas énormément d'une discussion qu'on pourrait avoir d'un bureau à l'autre, quoi. Mmh. Voilà.
Alexandre Lecoq, est-ce que les technologies aujourd'hui sont vraiment au point? Quels sont les outils là qui se sont développés ces dernières années qui ont tout changé pour travailler à distance?
Oui, aujourd'hui, techniquement, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Hein. On peut se voir, se parler, échanger des informations, etc. Donc, on arrive à recréer ce qu'on appelle l'espace de travail, hein, quasiment ce qui nous entoure au bureau. On peut maintenant le mettre dans une machine, un ordinateur ou un téléphone portable et pouvoir bénéficier de cet environnement à peu près où on veut, que ça soit à la maison d'ailleurs ou ailleurs. Mmh. Donc technologiquement, oui, c'est de plus en plus au point.
Sur le contrôle, justement. Alors, c'est-à-dire qu'on sait, c'est-à-dire une entreprise peut savoir en temps réel qui est à son poste de travail à distance.
Alors, l'entreprise peut le savoir si elle s'équipe. Pour le faire, elle peut le savoir. Elle peut aussi, c'est le cas notamment, je pense à un projet en Allemagne, elle peut aussi décider que les employés, par exemple, n'auront pas d'email pendant le week-end. Elle peut contrôler l'accès à des informations, oui, non. Et ça, c'est des choses qui sont importantes parce que ça permet aussi, c'est une démarche de bien-être aussi qui doit être, qu'on doit garder en tête. Donc, le contrôle, oui, mais pas forcément le flicage
au sens.
En
même temps, vous savez bien qu'il y a beaucoup de salariés qui disent, bon, on peut faire des réunions avec de la visioconférence, qui technologiquement est très au point, et pourtant, les gens continuent de voyager, de prendre des avions pour aller voir les équipes, notamment dans des entreprises qui sont mondialisées. Alors, ça prouve bien que c'est pas si au point que ça.
Ça prouve qu'il y a des besoins qui sont différenciés surtout. C'est-à-dire que il y a la rencontre humaine, elle est essentielle aujourd'hui pour faire pour des choses qui ne se virtualisent pas, la créativité, l'échange. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire à distance, malheureusement. Mais beaucoup de choses peuvent se faire à distance aujourd'hui. Et quand on se rencontre, généralement, c'est pour une bonne raison.
Le télétravail est-il l'avenir et surtout est-ce que ça permet vraiment une rentabilité? Ça aussi c'est la question centrale et c'est la question que tout le monde se pose, enfin en tout cas surtout les managers. On va y venir dans quelques instants, ça sera juste après Right Here. Oscilla et Cassie, je ne sais pas du tout si je prononce bien. En tout cas, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. On parle du travail à distance. Alors, à partir de son domicile ou pas forcément. D'ailleurs, on peut aller dans des bureaux partagés, mais pour s'éviter un temps de transport trop long pour regagner son entreprise. Nous sommes en ligne avec un voisin qui nous appelle de l'Ohio aux États-Unis. Bonjour Jean-Élie.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes un voisin de la communauté 7 milliards et vous travaillez pour plusieurs entreprises à partir de chez vous, c'est bien ça?
Tout à fait, tout à fait. Je travaille pour deux entreprises en télétravail. Et pour l'une, ce que je fais, c'est du service à la clientèle. Et pour l'autre, j'enseigne le créole haïtien et le français.
Ah oui, d'accord. Donc vous avez en plus deux métiers. Enseignant, oui. Hein, c'est ça, créole français, et puis service clientèle, commercial.
Tout à fait.
Oui. Et alors, comment vous organisez?
Eh ben, et je m'organise très bien et je consacre pratiquement beaucoup de temps à mon travail. Parfois, on pense qu'il n'y a pas vraiment de rentabilité, mais pour moi, c'est tout à fait le contraire. Et ce dont j'ai besoin pour mon boulot, pour mes boulots, pour mes deux travaux, c'est d'un ordinateur, d'une webcam, d'un casque d'écoute. Et j'ai besoin d'une connexion à l'internet et puis de mon téléphone portable. Donc ce sont les matériels dont j'ai besoin, que j'utilise et pour mes boulots. Et pour moi, il y a beaucoup plus d'avantages. Que d'inconvénients.
C'est-à-dire
C'est-à-dire, cela m'évite surtout les déplacements et m'économise du temps et de l'argent. Et j'ai également la chance de bâtir mes propres horaires de travail. Et puis, je gagne quand même des revenus assez intéressants L'importance du télétravail pour moi, la chose la plus importante, c'est que j'arrive à m'épanouir dans mon travail, d'améliorer ma qualité de vie.
Mais alors, pas de café avec les collègues, évidemment.
Oui. Bon, oui.
Vous n'allez jamais au bureau, finalement. Là, vous êtes vraiment en télétravail toute la semaine.
Tout à fait. Mais l'objectif pour moi, c'est de pouvoir gagner du temps, d'avoir plus de temps de passer avec ma famille, parce que je ne voulais pas vraiment passer beaucoup plus de temps dehors qu'à la maison. C'était la raison pour laquelle j'ai choisi de travailler et pour faire des entreprises en télétravail.
Oui, c'est ça. Et en plus, vous avez un logement beaucoup plus cher que si vous étiez obligé d'être domicilié à New York pour travailler.
Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est quand même intéressant. C'est une révolution dans le monde du travail. Et je pense qu'ici, aux États-Unis, cela connaît un boom assez intéressant. Et ça va continuer à avoir une répercussion sur le monde il n'y a personne qui puisse vraiment imaginer l'expansion que va connaître le télétravail. Pour moi-même, c'est déjà assez intéressant de pouvoir travailler depuis mon
domicile. Donc, vous êtes commercial, enseignant à distance de français créole. Merci pour ce témoignage, Jean-Élie. Vous résidez dans l'Ohio, aux États-Unis. Alexandre Lecoq, est-ce qu'il y a des pays aujourd'hui qui sont nettement plus en avance sur le télétravail que d'autres?
Alors, cet auditeur est très intéressant parce qu'il révèle une tendance qui a tendance à émerger là en ce moment aux États-Unis, qui évidemment, de par sa géographie, son histoire, est très en avance sur ces questions de travail à distance. Il y a cette émergence de ce qu'on appelle la freelance economy, excusez-moi pour l'anglicisme, mais cette idée que évidemment on devient des travailleurs à distance et de plus en plus des travailleurs indépendants. Donc il y a cette émergence de cette nouvelle classe, je dirais, de travailleurs qui cumule différentes entreprises tout en restant chez soi, différentes fonctions, etc. Alors c'est pas sans poser quelques questions même aux États-Unis, mais culturellement il y a une acceptation qui est beaucoup plus importante. En Europe aujourd'hui, je pense que Gauthier me contredira pas, on n'est pas encore à ce niveau-là, on reste encore très attaché à une cellule entreprise, on peut s'en éloigner, mais on a encore du mal à s'en séparer. Pour parler d'autres pays, l'Espagne par exemple, reste très traditionnel, le Japon, impossible de parler de télétravail au Japon, c'est complètement banni, on ne peut pas en parler, on ne peut imaginer ça qu'au sein de l'entreprise,
c'est-à-dire que
la mobilité elle se passe dans l'immeuble de l'entreprise.
Exactement. On va y revenir, par exemple, la Corée du Sud. Ah, je suis désolée, il faut qu'on rende l'antenne pour le flash, mais bien évidemment, on a toute une deuxième partie de l'émission qui nous attend avec beaucoup de questions, notamment Bai à Dakar qui nous dit, est-ce que c'est pas un moyen aussi pour l'employeur de diminuer ses charges comme la location de bureaux? Nous y revenons avec vous trois, Gauthier Tout le Monde, Alexandre Lecoq et Bruno Gonzalves, et bien sûr vos questions, vos témoignages, si vous le souhaitez, les voisins, au 33 1 84 22 71 71. Travailler à distance, c'est pour aujourd'hui ou pour demain. Retour dans 3 minutes après le flash.
Tous les jours, Accent d'Europe.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. 7 milliards de voisins, à quand le télétravail? Travailler à distance, est-ce finalement réaliste, souhaitable? Pourquoi les entreprises sont-elles relativement frileuses à cette idée alors que les technologies semblent au point? Nous en discutons avec vous, Gauthier Tout-le-Monde. Vous avez mené une expérience peu commune qui est racontée dans votre livre Robinson, volontaire de l'Open Space à l'île déserte. 40 jours donc sur une île déserte à plusieurs heures de navigation de toute civilisation au fin fond de l'Indonésie. Et d'ailleurs, vous rappelez dans votre livre que selon une étude de l'OCDE, entre 40 et 50% de la population active pourrait être acquise au télétravail. D'ici 10 ans, il y aurait déjà plus d'un milliard de télétravailleurs nomades dans le monde. Reste à savoir ce qu'on entend par travailleurs nomades, parce qu'on le disait en première partie d'émission, il y a toujours eu des femmes qui faisaient du tricot chez elles et qui vendaient leur tricot sans se rendre dans un atelier, par exemple. Ça existe depuis la nuit des temps.
Alors, en Asie, par exemple, on voit des gens dont leur bureau, c'est leur ordinateur. Mmh. Et on les retrouve à Kuala Lumpur, le lendemain à Singapour. C'est étonnant. Mmh. C'est étonnant. La personne à qui j'étais en contact pour l'île, lui, son métier, c'est de rechercher des îles désertes sur les océans. Eh bien, son bureau, c'est son ordinateur, et son cadre de bureau, ce sont des îles. Voilà. Donc, c'est très étonnant, mais c'est une tendance vraiment de fond. On ne peut pas revenir en arrière. C'est mondial, c'est inévitable. Donc après, le tout est de savoir comment on peut s'adapter, et voir aussi quel est le coût. Parce que dans certains cas, le coût de l'Internet peut être prohibitif. Donc c'est là aussi une question qu'il faut se poser.
Ouais, on va y revenir, notamment à votre équipement technologique, puisque vous, c'est le soleil qui vous a alimenté. Bruno Gonzalves, vous êtes spécialiste du travail. Alexandre Lecoq, vous êtes dans le studio de RFI. Vous vendez du matériel, justement, pour le télétravail. Bruno Gonzalves, vous êtes à Pau en télé-interview. Vous souhaitiez réagir à ce que nous expliquait Alexandre Lecoq juste avant le flash sur, en gros, le relatif retard de l'Europe par rapport à notamment à la culture américaine d'avoir plusieurs jobs, cette flexibilité et donc un télétravail plus installé dans les vies, plus en avance.
Alors oui, effectivement, tout à l'heure j'entendais parler effectivement de frilosité des entreprises et c'est vrai qu'elles l'ont été très longtemps. Maintenant, il faut savoir que 40% des entreprises du CAC 40 ont aujourd'hui une politique de télétravail. À peu près la moitié des grosses entreprises en France, comme HSBC, Air France, Canal+, Capgemini, AXA, tout ça, ont des politiques de télétravail. Alors évidemment, vous disiez tout à l'heure, il faut savoir ce qu'on entend par télétravail. En gros, dans le salariat en télétravail, il y a trois gros tiers, en fait. Il y a un tiers qui va faire du télétravail de manière très épisodique, très, très ponctuelle, une ou deux fois par mois, bon, pour des raisons souvent liées à des contraintes, que ce soit météorologiques, techniques, enfin. Et puis, vous allez avoir un autre tiers qui, lui, va plutôt concerner des gens qui vont faire du télétravail, on va dire, la moitié de la semaine, grosso modo. Soit parce qu'ils sont en déplacement, soit parce que justement ça fait partie de la politique de la maison d'avoir des gens qui travaillent de chez eux. Et puis vous avez un autre tiers qui emploie des gens, on va dire, en télétravail permanent. Et ça, c'est une tendance qui est en train de grossir parce que le nombre de personnes qui aujourd'hui sont en télétravail en étant salariés a doublé. Depuis ces 10 dernières années.
Mais notamment à cause de la mobilité. C'est-à-dire que quand vous êtes en télétravail parce que vous êtes en mission, ça pose pas du tout la même question pour votre management de que fait-il, comment je le contrôle? La vraie question de fond, c'est ça.
Alors
quand
justement, il faut savoir qu'en fait, en France, il y a une culture du management qui est plutôt accentuée sur le présentéisme. Davantage que ce qui se passe peut-être aux États-Unis ou dans d'autres pays où on met l'accent principalement.
C'est plutôt combien tu rapportes aux États-Unis.
Voilà, c'est la mise en place d'objectifs et le suivi de la performance. En gros, un salarié qui est physiquement présent, ça va rassurer le manager, ça va dire ouais, ok, le mec il est pas payé à rien faire. Bon, c'est en cela d'ailleurs que l'expérience.
Même s'il faut quand même préciser que dans les open space, on peut aussi faire ne pas être à son bureau tout en étant à son bureau, c'est-à-dire en faisant du télé-shopping par exemple.
Oui,
il y a beaucoup de salariés qui le font. Il y a des études qui l'ont montré.
Oui, tout à fait. Mais je veux dire par là que on n'est pas. En fait, il faut il faudrait enfin, il y en a certains qui l'ont déjà fait, fort heureusement, mais il faut sortir de l'idée, en fait, où toute personne qui est salariée, en fait, est une personne qui est comparée au comparable à quelqu'un qui travaille dans une usine et qui doit faire un nombre de pièces par heure. Et puis, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Enfin, c'est plus comme ça que ça fonctionne l'économie
actuelle. D'autant plus avec l'augmentation du secteur tertiaire, effectivement.
Exactement.
Alors, vous le savez, on est un peu en télétravail dans cette émission tous les jours, puisque les voisins nous appellent au 33 1 84 22 71 71. Stéphane nous appelle d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonjour, Stéphane.
Bonjour, Emmanuel.
Vous êtes un télétravailleur ?
Oui, je suis un télétravailleur et je travaille pour l'université de Nicosie à Chypre.
Ah ben, on a un problème de ligne, justement, ça tombe bien. Il faut dire que ça...
Oui.
Oui, vous nous entendez bien ?
Oui, je vous entends très bien.
D'accord. Donc, vous travaillez à distance pour une université à Chypre. Vous avez 30 ans. Quel est votre métier exactement ?
Alors, je suis représentant d'université. Voilà, et mon métier, c'est de pouvoir vendre des MBA, des bachelors et des masters à distance aux étudiants en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que les étudiants s'inscrivent sur notre plateforme et ils ont l'occasion d'avoir des cours qui leur donnent droit à des diplômes internationaux.
C'est ça. Donc vous cherchez des clients. Vous cherchez des clients finalement pour cette université. Vous êtes employé à plein temps pour ce travail-là?
Oui, je suis employé à plein temps. Ça fait 6 mois que je travaille avec l'université de Nicosie et puis tout se passe bien.
Alors justement, quel est le bilan pour vous? Vous travaillez à partir de votre domicile. Vous êtes aussi en déplacement pour rencontrer des étudiants, j'imagine, pour aller dans les campus en Côte d'Ivoire.
Oui, tout se passe bien. Il y a une partie qui se passe en ligne où les étudiants s'inscrivent directement en ligne et ils ont l'occasion d'avoir leur cours en ligne. Il y a une autre partie dans laquelle moi je suis en tant que représentant, je vais vendre des formations aux étudiants, leur faire des présentations et puis je reviens à mon bureau et je travaille avec mes collègues à distance.
Et dans votre organisation, quelles sont les limites de ce travail à distance pour votre employeur que vous ne voyez guère finalement?
Oui, c'est-à-dire que mon employeur n'a pas l'occasion de tout le temps vérifier si je suis à mon poste. On marche plus sur la confiance parce que sait que le représentant à distance, il a un objectif et c'est à partir de cet objectif là que mon employeur vérifie si le travail est fait ou pas.
Vous avez le sentiment, justement, on en parlait juste avant qu'on vous donne la parole, Stéphane, que le contrôle, c'est vraiment un problème central dans le travail à distance, hein, dans la relation entre l'employeur et l'employé.
Oui, ça peut être un problème, ça peut être une question, mais cette question elle est facilement résolue parce que on a des CRM, c'est-à-dire qu'on a des logiciels qui permettent de suivre la régularité du travail de celui qui est de l'agent, parce que le CRM profile par heure ce que l'agent fait.
Ah, c'est ça. Donc, en fait, tout ce que vous faites est en réseau informatique, donc on vous voit travailler en temps réel, c'est ça?
Voilà, vous travaillez en temps réel, et lorsque vous passez même un coup de fil, vous enregistrez l'heure à laquelle vous avez passé le coup de fil, et donc votre employeur sait si vous êtes, êtes au travail.
Donc, en fait, vous êtes beaucoup plus fliqué que si vous étiez dans un bureau ordinaire.
Un peu, mais on ne met pas trop la pression sur l'agent. On lui permet de faire ses objectifs parce que il a la capacité d'expliquer ce pourquoi il était soit en ligne ou soit offline.
Merci Stéphane pour ce témoignage. Qui veut réagir là dans le studio?
Ce qui est important, c'est qu'il y a une culture du résultat. À la limite que quelqu'un passe 2 heures pour faire quelque chose ou 3 heures, on s'en moque un peu. L'essentiel, c'est le résultat. Et en France, on a un petit peu de mal à juger ça, le quantifier, faire des lois là-dessus, etc. Le résultat, c'est ce qui est le plus important.
Mais dans l'équipe que vous avez dirigée à distance pendant 40 jours à partir de votre île déserte, Gauthier Tout-le-Monde, vous aviez déjà des... Alors c'est une petite équipe, hein, c'est une PME d'une dizaine de personnes. Vous aviez déjà des salariés dans votre équipe qui étaient eux-mêmes à distance. Il y avait déjà cette culture-là.
Il y avait cette culture-là et ça s'est passé très bien. Partiel, absolument, parfois d'un ou deux jours par semaine. Ces relations, elles sont basées sur la confiance. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui aime bien être derrière les gens, regarder ce qui se passe. Donc il y a une relation de confiance qui s'établit. Et du coup, c'est comme ça que ça marche. Il faut que le projet d'entreprise accueille le travail à distance et que tout le monde adhère à ça. Et que par ailleurs, une confiance de l'employeur vis-à-vis de ses salariés, et l'inverse, c'est également vrai. Mmh. On s'imagine pas que l'employeur va toujours regarder derrière les gens, mettre des tas de logiciels en place pour les fliquer comme un malade.
Ouais. Hein, c'est un problème qui est d'ailleurs accru lorsque les deux protagonistes se retrouvent sur des fuseaux horaires différents. Ouais. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, de travailler pendant un peu plus de 2 ans pour une entreprise qui était en Australie. Alors, autant vous dire que le décalage horaire, c'était quelque chose. Et d'ailleurs, je rebondis rapidement sur le fait qu'on peut avoir plusieurs métiers possibles en même temps, puisque à un moment donné, j'ai eu une période de chevauchement où je travaillais à la fois pour des gens qui étaient en Australie et des gens qui étaient au Québec. Donc autant vous dire quand on est en France.
Alors là, ça devient, excusez-moi, un cauchemar le télétravail.
non, parce qu'en fait justement, l'intérêt c'est que on peut se positionner sur un certain nombre de tâches à accomplir avec des moments où on va se regrouper, non pas physiquement mais virtuellement, mais en tout cas par téléphone, par Skype, par ce que vous voulez, à des moments qui vont être confortables, en tout cas gérables par toutes les parties. Mmh. C'est-à-dire que moi, je pouvais très bien avoir des contacts en début de journée avec l'un de mes deux donneurs d'ordre qui était à 10 000 km de là. Mmh. Et puis le soir, j'avais un contact avec l'autre. Mais voilà, pour eux, c'était le matin ou c'était en fin de journée, mais c'était pas gênant non plus.
Ça veut dire quand même de revoir complètement sa façon de travailler, ouais. Son organisation de travail. Hein,
il faut être un petit peu autonome, il faut être un petit peu responsable, mais enfin, ça fait partie des... On est dans une société où
il faut aussi des capacités d'organisation que tout le monde n'a pas forcément. Alors, on peut être très bon dans son métier sans avoir ces capacités d'organisation.
Il faut être un peu organisé.
Ça s'apprend aussi. Ça s'apprend,
voilà, hein. C'est ça. Voilà,
c'est un des problèmes, on parlait tout à l'heure de où va la technologie. Alors la technologie, elle permet beaucoup de choses. On se rend compte aujourd'hui dans les entreprises, notamment les entreprises qui ont été citées par Bruno auparavant, ces grandes entreprises du CAC 40, que la difficulté, c'est de mettre en place les plans de formation qui vont accompagner ces gens qui vont travailler un jour, deux jours par semaine en dehors du travail. Parce que il y a un accompagnement du management, on en a déjà parlé, mais aussi des gens eux-mêmes pour qu'ils apprennent à se réguler, qu'ils n'en fassent pas trop non plus, parce qu'ils ont parfois tendance à trop travailler, ces gens-là.
Et normalement, donc, c'est basé sur le volontariat. Hein,
Tout à fait. Donc il faut aussi
leur donner... Pour démontrer que, oui, ils sont vraiment performants tout en étant à la maison.
Parfois, les gens se mettent un peu la pression, si je peux me permettre cette expression. Ouais, tout à fait.
Ouais. Gauthier, tout le monde, vous avez énormément bossé sur votre île déserte.
Lui, il s'est mis la pression, lui.
Au-delà du raisin, parce que j'avais même pas le temps de pêcher. Bon, je suis revenu, 14 kilos en moins.
Mais oui, puis vous avez profité seulement des derniers jours pour faire un peu le tour de l'île, vous profitez de la mer, de la baignade, ce qui est quand même un comble.
Oui, c'est une caricature.
Mais alors, ce qui est intéressant dans votre mode de management, Gauthier, tout le monde, quand vous êtes sur cette île déserte au fin fond de l'Indonésie, à plusieurs heures de navigation de toute civilisation, c'est que, bien évidemment, il y a des risques pour votre vie, votre survie. D'abord, vous êtes sous-alimenté parce que vous n'avez pas le temps de pêcher, vous avez seulement des rations de riz et de pâtes, donc vous êtes carencé, vous avez un peu des étourdissements. Vous avez risqué la noyade, vous avez eu des visites de pseudo-pirates pas franchement très agréables. Vous n'en parlez pas à votre équipe. Parce que vous dites, mais s'ils s'interrogent sur ma survie, ils vont pas être très productifs.
C'est pas dans cet esprit-là, mais je craignais qu'ils s'inquiètent beaucoup et que toutes les deux heures, on me demande si je vais bien. Et comme on travaillait à distance, principalement par mail, j'avais pas envie de répondre à des mails toutes les deux heures en disant ça va très bien, je vais me coucher, au revoir,
surtout
merci.
Si vous les receviez pas en même temps.
Et parfois en plus de pouvoir des pannes qui arrivaient, donc ne pas pouvoir dire je vais très bien, etc. Et du coup ça engendre une inquiétude. Donc moins on en dit, parfois mieux c'est.
Oui, moins on en dit. Alors moins on porte de vêtements aussi sur l'île déserte. Je fais allusion à ça parce que dans le message de Mbaye qui est à Dakar, il dit ce qui est bien, c'est que on n'a plus besoin de se soucier de ce qu'on va porter pour aller au bureau. Alors vous racontez dans le livre comment vous êtes habillé pour travailler sur la plage.
Alors on s'habille pas forcément beaucoup la journée, mais
c'est
en
le
revanche,
moins qu'on puisse dire.
On se force le soir à se créer des habitudes. Quand on est vraiment seul, qu'on parle à personne, etc., il faut vraiment se créer des habitudes, une certaine forme de discipline. Et donc, le soir, j'étais très bien habillé, comme si j'étais en ville, j'étais seul.
Pour dîner tout seul.
C'est important, ça. Excusez-moi, je reviens là-dessus parce que c'est l'un des clichés qui fait, enfin qui font en tout cas que les entreprises ont du mal encore aujourd'hui en France avec le télétravail, c'est qu'on a encore le cliché du gars qui bosse au bord de sa piscine ou alors qui est dans son salon en caleçon. Ça n'apporte pas un crédit très très important. Et donc il y a beaucoup d'entreprises qui disent ah non, je vais pas payer un gars pour qu'il glande devant la télé en mangeant des chips pendant qu'il tape son rapport sur son portable quand il a le temps. Je veux dire moi je sais que pour mon compte personnel, ce que je fais, c'est que le matin quand je me lève, je me prépare comme si j'allais dans un bureau extérieur. Je vais dans mon bureau chez moi, je ferme la porte, mais je suis habillé, je suis rasé, je suis propre. Et si jamais quelqu'un veut communiquer avec moi, il y a aucun problème, on peut le faire même avec la caméra branchée. J'aurais pas honte de me retrouver avec mon t-shirt Snoopy et mon caleçon à fleurs. Quoi.
Je posais la question à Gauthier Tout-le-Monde qui restait extrêmement pudique, mais qui raconte quand même dans son livre sur son île déserte qu'il passe, comme il fait extrêmement chaud, que vous passez la journée nue comme un ver avec des chaussures pour éviter les blessures, parce que vous avez énormément de blessures qui en plus cicatrisent mal avec l'humidité. Effectivement, vous vous habillez le soir, mais la journée c'est assez cocasse quand même.
Oui, surtout que lorsque la faim est un petit peu prégnante, j'ai même poursuivi une poule que j'avais ramenée. J'étais nu avec ma machette et mes chaussures de plage, et je me suis dit, mince, si on voyait quand même de quoi je l'ai.
Alors, ceci dit, quel est le gain pour les entreprises? Est-ce qu'on a mesuré, Alexandre Lecoq, votre entreprise Citrix a effectué une étude sur les gains potentiels pour l'entreprise?
Tout à fait, pas seulement pour l'entreprise.
Combien et à quel niveau ça se situe?
Alors, plus que pour l'entreprise, je dirais que c'est pour l'ensemble de la société que ça nous intéressait, parce que on dit souvent le télétravail, c'est plus de productivité, etc. Mais on avait du mal à mettre le doigt dessus, si je puis dire, et à mesurer ça. Donc on se rend compte aujourd'hui que sur une population qui est éligible au télétravail, on se rend compte que tout le monde ne peut pas le faire, mais si on prend les gens qu'on appelle les travailleurs du savoir, donc ces gens qui, pour faire simple, passent plus de temps à travailler devant un ordinateur qu'autre chose. Ça représente un petit peu moins de 4 millions de personnes en France, hein, 3,8 millions je crois.
En salariés.
Oui, tout à fait.
Parce qu'il y a 1,8 million à peu près indépendants.
Exactement, tout à fait. Qu'on n'a pas inclus. Et ces gens-là, quand on leur pose la question, déjà ils sont plutôt favorables à vouloir travailler quelques jours par semaine ailleurs qu'au bureau. La moyenne c'est 2 jours, et quand on prend ces 2 jours par semaine, on se rend compte que on arrive à économiser en temps de transport, en coût de transport.
Ça, c'est pas l'entreprise qui économise. Enfin, ou alors,
c'est non, c'est la société.
Comme elle paye une carte annuelle en général de transport, ça revient au même finalement.
Tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens, eux, gagnent de l'argent. Ils arrivent à gagner de l'argent.
Mais la vraie question, là, c'était pour l'entreprise.
L'entreprise, elle va gagner notamment sur les locaux. On se rend compte qu'il y a des grands projets aujourd'hui sur les refontes des locaux. On sait que les entreprises vont construire moins de bureaux que d'employés maintenant. Hein. On est sur une moyenne de 8 bureaux pour 10 employés, ça commence à descendre sur les nouveaux projets.
Avec des espaces partagés, rotatifs, etc.
Exactement, tout à fait. Et puis, des économies aussi sur les déplacements que l'entreprise doit prendre en charge, et puis la productivité qui reste un enjeu majeur. Au-delà de ça, il y a aussi tous les coûts qui sont liés au mal-être au travail. Ça coûte cher aux entreprises, mine de rien. Et c'est une solution
pour eux. Ça a été chiffré d'ailleurs.
Ouais, tout à fait.
Mais quel est aujourd'hui l'argument économique qui pèse le plus pour décider les entreprises à proposer des solutions partielles de télétravail à leurs salariés?
Plus 22% de gains de productivité avec le télétravail. Avec la réduction de l'absentéisme, l'efficacité qui est accrue parce qu'il y a moins de pression sur les gens, il y a des gains de temps, il n'y a pas de problème au niveau des transports, il n'y a pas de gens qui arrivent en retard au boulot. Ça a été calculé à 22%. C'est pas neutre.
On parle du télétravail aujourd'hui et vous pouvez bien sûr nous appeler à distance au 33 1 84 22 71 71. Don't look good, then I don't look good, then we don't look good. So let's make it work, please. Straight to work, please. Up your shirt sleeves. And if you're done talking, then I'm done talking, so we're done talking. So let's connect minds past your bedtime, and I'm on deadline. Just cut the BS and don't be depressed. You need to be stressed. Don't forget this, you're my apprentice. You need to sweat this. Feel the tension, your teeth are clenching, and rev the engine. Let it guide you, and get inside you, and get like I do. Working together, living together, dying together. Working together, living together.
then we don't look good. And if you mess up, it's like I messed up and we both messed up. Just don't be lazy and don't betray me, cause it drives me crazy. And when I say crazy, you say how crazy, I say real crazy. And if the boss is happy, then she will thank me and you will thank me. But if the boss is cranky, then she won't thank me and I won't be happy. Frankly, if I get cranky, then I'll give spankings. So no hanky-panky, you cannot flank me, you don't outrank me.
Working together, living together, dying together.
Stick with me, kid, you're stuck with me, kid, to keep my secrets. See, I'm hard to work with, but all the work is hardly worthless.
Working together, c'est pas gagné. Hein. Beaucoup s'intéressent au télétravail. Il y a une question sur Facebook, un internaute qui nous demande comment est-ce qu'on peut trouver un poste en télétravail. Vous nous disiez justement, Alexandre Lecoq, que les annonceurs, enfin les entreprises n'annoncent pas forcément que le travail est en partie à distance.
Et c'est vraiment dommage parce qu'on se rend compte qu'une offre d'emploi qui mentionne la possibilité de travailler à distance ou du télétravail, elle va être, les gens vont s'y intéresser beaucoup plus. Et l'entreprise va trouver beaucoup plus facilement le profil qu'elle cherche si elle le mentionne.
Et pourquoi elle ne le mentionne pas ? Elle a peur d'attirer justement les flemmards ?
C'est ça.
Ah oui,
moi, j'osais pas le dire, mais je crois que Bruno a raison. C'est ça, il a raison. Oui, il y a une culture aujourd'hui qui n'est pas encore instillée dans les entreprises quand on en vient à ça.
Il faut savoir qu'en Ile-de-France, quand même, il y a les trois quarts, enfin 76% des salariés qui souhaiteraient travailler, enfin qui souhaiteraient télétravailler. C'est un sondage OpinionWay qui a été fait il y a 2 ans.
À temps partiel, pas tout le temps. La vraie solution d'avenir, c'est ça, c'est 2 jours en télétravail, 3 jours au travail.
Et 98% chez les jeunes diplômés. Alors on pourrait se dire, ouais, les jeunes diplômés, bon, ils ont peut-être envie de continuer à jouer à leur console de jeu. Et c'est vrai que les employeurs peuvent avoir une espèce de frilosité. Je voulais revenir brièvement sur les avantages, parce qu'on a parlé des avantages pour les entreprises, pour la société. Évidemment, il y a l'histoire de l'empreinte carbone qui, je crois qu'on avait calculé qu'il fallait planter 144 arbres pour faire l'équivalent de l'économie carbone d'un télétravailleur. En fait, il y a aussi, pour le salarié lui-même, outre la qualité de vie qui est pas mauvaise, hein, si on sait bien s'organiser, on arrive à faire un travail, voilà, et non seulement un travail correct, mais en plus être bien avec soi-même. Il y a des gens qui parlent du 13e mois du télétravailleur, c'est-à-dire qu'en fait, entre les économies qu'ils réalisent à la fois sur ses déplacements, sur la voiture, sur tout ça, on arrive à peu près à 1300-1400 euros par mois, par an, je veux dire, d'économies. Sur un salarié payé de la même façon. Et tout à l'heure, on disait que tout le monde ne pouvait pas être télétravailleur, tous les métiers ne peuvent pas être télétravaillés.
Alors justement, on a un message intéressant qui est en train d'être posté là, qu'on me poste à distance d'ailleurs. Ouais. C'est Romain Dubrac qui me poste les messages. Issa sur Facebook qui nous dit: ça fait 10 ans que je travaille en télétravail d'Allemagne avec une entreprise britannique. Il y a beaucoup d'avantages, mais 2 problèmes, nous dit Issa: manque de progression de carrière. Ah ben oui, quand on peut pas aller, avoir des petites conversations avec son chef en privé, c'est plus difficile. Difficulté à travailler sur des projets et puis clash de culture quand on ne voit pas ses collègues. Comment vous réagissez? Très brièvement, il reste très peu de temps avant la fin de l'émission.
Après, il faut pas croire que télétravailleur c'est un boulot d'autiste. Hein. Enfin, c'est un mode d'organisation. Après, on peut très bien rencontrer les gens de temps en temps, et il faut pas non plus s'isoler.
Pour réaction là sur ces 3 problèmes, donc manque de progression de carrière, difficulté à travailler sur des projets, clash de culture.
C'est indiscutablement les limites. Hein. Ouais. Il faut quand même voir physiquement régulièrement les personnes.
Ouais. Alors vous-même, d'ailleurs, vous avez passé 40 jours sur une île déserte, Gauthier, tout le monde. Alors, il y avait aussi, on l'a pas vraiment mentionné, mais enfin, vous étiez équipé avec du soleil. Il y avait toute une dimension aussi environnementale. Hein. Il y avait un idéal
absolument.
Derrière.
J'ai testé du matériel solaire et j'ai pu vivre en totale autarcie grâce au solaire.
Et vous avez laissé l'île intacte quand vous êtes reparti,
oui.
C'est ça?
Absolument. Oui.
Vous êtes
même donc... la poule.
Non, peut-être pas, oui.
Il y a quelques animaux domestiques qui se sont fait dévorer en chemin, c'est ça.
Ah bon.
Ceci dit, vous nous disiez aussi que quand on est loin de tout, comme ça a été votre cas, on perd aussi le sens des réalités. Là, il y a presque un problème culturel entre vous et vos salariés.
C'est même pire que ça, c'est-à-dire qu'il y a un problème entre l'insulaire et puis l'autre monde. L'autre monde, c'est tout le reste de la Terre. Et donc les préoccupations de l'insulaire sont sûrement pas les mêmes que celles des gens qui sont sur le continent. Mmh. Et donc très rapidement, on peut arriver à des formes d'incompréhension qui sont relativement importantes.
Mmh. C'est-à-dire ?
Un petit problème dans le travail qui est mentionné à Paris, et puis moi je vais le prendre comme quelque chose de très grave, parce qu'il n'y a personne pour me raisonner quand on est seul.
Vous allez repartir en télétravail à l'autre bout du monde, Gauthier Tout le Monde ?
Je vais changer de bureau au mois d'octobre prochain, donc je vise les Chesterfield, ce sont des tout petits îlots entre l'Australie et la Nouvelle-Calédonie, une terre oubliée française.
40 jours à nouveau, en télétravail.
Absolument.
Mais très très loin de toute civilisation.
Je serai à 550 km de la première terre habitée, et sur cette île, il y a principalement des fous. Enfin, des oiseaux, j'entends.
D'accord. Eh bien, on suivra bien sûr ce projet. Merci beaucoup d'être venu dans le studio de 7 milliards de voisins. Gauthier Tout le Monde, Robinson volontaire de l'Open Space à l'île déserte. C'est publié aux éditions Artaud. Alexandre Lecoq pour la société Citrix. Bruno Gonzalves, vous avez publié Ta mère sait que tu travailles sur Internet. Point d'interrogation aux éditions Les Buissonnières. Merci à toute l'équipe, avec Arnaud Rosenstingel au lien avec les auditeurs au standard, Romain Dubrac, Jonas Malet-Solars et puis Cécile Davolo. Bien sûr, pour toutes vos réactions, vous pouvez nous écrire à 7milliards@rfi.fr et tous vos messages sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Demain, 7 milliards de voisins, on parlera de la place des femmes au cinéma. Quel rôle pour les comédiennes et pour représenter quoi ? Voilà, je vous dis à demain, les voisins et les voisines. Merci d'être fidèles.
L'hebdo sur le web, sur